Bonjour à tous. Y a-t-il au sein de l'armée française des espions à la solde de la Russie ? La question se pose après l'arrestation d'un lieutenant-colonel français l'été dernier dans une base de l'OTAN à Naples. Bonjour Franck Cognard.
Bonjour.
Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Vous allez donc nous dire qui est ce militaire, comment il a été arrêté et quels soupçons pèsent sur lui. Mais avec vous, on verra aussi qu'il existe au sein de l'armée une forme de russophilie qui a parfois du mal à s'accommoder avec la politique atlantiste de l'OTAN.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colombat.
Ce que je peux dire, c'est confirmer qu'un officier supérieur est sous le coup d'une procédure judiciaire pour transmission ou atteinte à la sécurité.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Florence Parly, c'était en août dernier. La ministre des Armées confirme sur Europe 1 qu'un militaire français en poste dans une base de l'OTAN a été arrêté pour espionnage au profit de la Russie et remis à la justice. Mais depuis, c'est le silence. Alors à Secret d'Info, on a voulu tenter de comprendre ce qui s'est passé. On a donc enquêté. Et Franck Cognard, de votre côté, vous vous êtes d'abord intéressé au profil du militaire en question. Alors dites-nous, qui est cet homme qui a été arrêté ?
La ministre des Armées parlait d'un officier supérieur. C'est un lieutenant-colonel. Il est marié, il est père de famille, il a une cinquantaine d'années. Il est décrit comme discret, mais ouvert, un peu intello. C'est ce que disent de lui, en tout cas, quelques-uns de ses camarades de sa promotion de l'école des officiers de Saint-Cyr, où il a fait partie dans la scolarité des meilleurs russophones. Cette russophonie, d'ailleurs, marque sa carrière militaire de l'école de langue à Strasbourg, où il se perfectionne, avec en point d'orgue sa nomination comme attaché de défense au Kazakhstan, une ancienne république soviétique.
Et c'est donc au Kazakhstan qu'il aurait développé ses aptitudes au renseignement ?
En tout cas, ça fait partie du travail qu'il avait à faire sur place, ce travail d'attaché de défense. Un attaché de défense, il est identifié, identifiable, et il a pour mission, par exemple, de prendre des photos d'une base militaire locale qu'il visite, pour mission de reconstruire des organigrammes. Ça n'en fait pas un espion, mais il participe à la collecte du renseignement d'intérêt militaire, comme le rappelle l'ancien ministre de la Défense entre 1997 et 2002, Alain Richard.
Quand il était en fonction au Kazakhstan, sa mission d'attaché de défense, c'est quand même d'essayer de collecter le maximum de ce qu'on peut savoir par voie légale, non seulement du pays où on est détaché, mais de son propre champ de relations. Et évidemment, le Kazakhstan, c'est probablement celui des pays d'Asie centrale qui est le plus connecté à la Russie en termes de défense.
Et donc, il aurait pu tisser des liens avec les Russes à ce moment-là ?
C'est une hypothèse, mais les sources militaires que nous avons interrogées et qui toutes disent être tombées de l'armoire en apprenant l'arrestation de cet officier, ces sources se demandent depuis quand exactement. C'est la question que se posent aussi ceux qui enquêtent sur son parcours depuis l'arrestation le 17 août, à savoir les militaires de la DRSD.
Et c'est quoi la DRSD ?
C'est la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense. C'est un service plutôt discret dont l'un des rôles est d'enquêter sur les militaires.
Et comment ils s'y prennent alors ?
Comme des enquêteurs de la police judiciaire classique, ils reprennent le fil de sa carrière, étape par étape. A-t-il été approché très tôt dès Saint-Cyr ? On peut l'envisager durant son passage à l'école de l'OTAN en Allemagne ou quand il était par exemple en mission en Finlande, un pays soumis à une influence russe très très forte.
Et donc un parcours très international, on l'entend, et puis il est muté à Naples.
Et ça se passe à l'été 2018, il est muté au sein de la base de Lago Patria, qui est un hub, une plateforme du renseignement otanien. Un hub visité par la sénatrice des Français de l'étranger, Joëlle Garriaud-Mellam. Elle est également membre de la Commission de la Défense et des Forces armées.
C'est un bâtiment très moderne, donc construit en 2012, un peu au milieu de nulle part, avec des bâtiments un peu espacés. Et il y a environ 80 Français, comme sur un grand campus à l'américaine. Ce hub était apparemment chargé de collecter les informations, d'échanger et d'avoir un petit peu la responsabilité de la surveillance de cette zone Moyen-Orient, Méditerranée...
Et mer Noire.
Bien sûr.
Une zone stratégique, on l'a bien compris. Et la surveillance de toute cette zone, Franck, elle consiste en quoi précisément ?
Alors, c'est à la fois de la surveillance, mais aussi du recueil et de l'analyse du renseignement. Mais Naples, c'est aussi de la planification et de la conduite d'opérations militaires de l'OTAN. Dans sa zone d'influence, on trouve aussi bien des missions opérationnelles au Kosovo qu'en Irak. On y trouve aussi des entraînements conjoints, des exercices, des partenariats avec la Tunisie ou l'Algérie par exemple. Sans oublier évidemment l'un des dossiers chauds du moment, qui est le dossier libyen.
Et ce lieutenant-colonel français dans cette base de Naples, est-ce qu'il avait vraiment accès à des informations sensibles ?
Ça dépend de quel niveau de sensibilité d'information on parle. Selon plusieurs de nos sources, il n'avait pas accès au plus haut niveau de confidentialité. Il faut savoir qu'il y en a quatre à l'OTAN, NATO Restricted, NATO Confidential, NATO Secret et Cosmic Top Secret.
Cosmic Top Secret ?
Ça sonne un peu comme le titre d'un vieux film de science-fiction, mais ce lieutenant-colonel, lui, apparemment, il n'a eu accès qu'aux deux premiers niveaux de confidentialité. Et encore, faut quand même savoir que même avec une habilitation NATO Secret, vous n'avez pas accès à tout ce qui est classé NATO Secret. Vous avez accès à ce qui est classé NATO Secret dans votre périmètre de compétences. Maintenant, il reste que oui, il avait tout de même accès à des informations confidentielles et il côtoyait sur place des gradés de haut niveau et de différentes nationalités.
Donc il fréquente cet état-major très cosmopolite, mais est-ce que pour autant il avait accès à des informations qui pouvaient intéresser les Russes ?
Forcément. Forcément, pour mieux le comprendre, écoutez ce que dit Olivier Mas. Alors lui, c'est un vrai espion de formation. Il a quitté la DGSE il y a 3 ans seulement. Et l'un des métiers qu'il a exercé au sein de ce qu'il appelle la centrale, c'est officier traitant. C'est-à-dire qu'il a dans le passé tamponné, entre guillemets, harponné, comme on dit, ou tenté de recruter des sources au profit de la DGSE, du renseignement français. Et c'est donc parfaitement ce qu'on peut attendre d'une éventuelle taupe comme cet officier français.
Si l'officier collabore complètement, c'est une mine d'or, hein, parce que il est dedans, donc il peut récupérer plein de choses, plein de documents, de rapports, de retours sur expérience, sur les exercices, sur les niveaux techniques. Un service de renseignement, il adore les numéros de téléphone et les adresses mail pour pouvoir ensuite intercepter. Alors là, avec quelqu'un qui est à l'intérieur, on lui fait récupérer des centaines et des centaines de numéros de téléphone. Quand on a quelqu'un qui est inséré dans un système et qui n'attire pas la suspicion, c'est vraiment de l'or. Il faut s'en rendre compte que c'est open bar, c'est un accès direct à énormément de choses.
Un accès direct à énormément de choses et donc, dans l'affaire qui nous intéresse, l'officier français dont on parle a fini par se faire repérer.
Oui, c'était à l'été 2019 et il s'est fait repérer par les services de renseignements italiens.
Et comment ils ont fait ?
Alors, ils ont identifié et suivi sur place un agent du GRU, c'est le service de renseignement militaire russe, et voici comment ça a pu se passer. Selon un ancien responsable de la section du contre-espionnage à la DGSE, il s'appelle Alain Chouet.
L'avantage des services italiens, c'est qu'ils sont sur place et qu'ils peuvent voir les choses. Deuxièmement, moi, je retire de bientôt 40 ans d'expérience dans ce domaine et notamment de coopération avec les services italiens, que ce sont des services extrêmement performants, extrêmement professionnels. Ce qu'ils surveillent tout particulièrement, c'est les activités des officiers traitants du GRU russe sur leur territoire. Et c'est certainement la surveillance d'un de ces officiers traitants du GRU qui prennent pas énormément de précautions, hein, contrairement aux gens du FSB. C'est certainement en surveillant un de ces officiers traitants du GRU qu'ils ont détecté la relation avec un officier français.
Et c'est ce qui explique peut-être que les Italiens aient donc détecté cette relation suspecte. Et ensuite, Franck, qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Ils avertissent les services de renseignement français, ainsi que les Américains. Évidemment, on est dans le cadre de l'OTAN. Et commence alors une enquête qui va durer 1 an et qui, selon nos informations, combine des filatures physiques, des surveillances électroniques. Les services italiens repèrent alors au moins 2 rencontres entre le lieutenant-colonel français et celui qui apparaît comme son officier traitant russe.
Et une fois que les Français sont informés, ils décident quoi ?
D'enquêter, évidemment, et puis d'en tirer les conséquences. Et à partir de là, il y a 2 procédures possibles. La mise à l'écart, si le préjudice est jugé mineur, en gros, c'est la voie de garage pour l'officier, l'accès restreint à certaines sources d'informations, et puis une sortie en douceur de l'institution au moment de la retraite ou de la fin de contrat. Et puis, il y a un deuxième cas de figure qui est celui de dénoncer les faits à la justice.
Oui, autrement dit, faire ce qu'on appelle un article 40 du Code de procédure pénale.
C'est ça, cet article stipule que tout fonctionnaire ou officier public doit transmettre à la justice les éléments en sa possession caractérisant un crime ou un délit. Mais faire ça, c'est pas anodin. C'est pour ça que pendant longtemps d'ailleurs, les services de renseignement et les décideurs politiques préféraient régler ces petites affaires en interne. C'est une décision difficile à prendre. C'est ce que nous dit l'ex-ministre Alain Richard, qui a lui-même été confronté à ce choix-là.
La décision qui revient en l'occurrence au ministre et qui a été prise par Florence Parly cette fois-ci, c'est est-ce qu'on règle l'affaire en famille ou est-ce qu'on va devant la justice ? Parmi les gens qui me conseillaient, il y avait un débat et beaucoup disaient, écoutez, si on peut régler ça en famille, c'est mieux. Parce qu'ils me disaient, et ils n'avaient pas tort, que d'une part, la présentation de ce dossier dans la justice, ça allait forcément faire circuler des informations, des descriptions de situations qui n'étaient pas favorables à notre autorité, et que le gars s'en sortirait sans doute avec une peine limitée. Donc, Je suis à peu près convaincu que Florence s'est trouvée devant ce dilemme et qu'elle a fait le choix que ça sera un procureur qui conduira l'enquête.
Mais Florence, c'est Florence Parly. Mais pourquoi choisir de confier l'affaire à un procureur plutôt que de régler ça en famille, comme le dit Alain Richard ?
Dans cette affaire, c'est pour être sûr que la fuite soit stoppée une fois en prison, comme il l'est aujourd'hui, cet officier est neutralisé entre guillemets. Et puis il y a peut-être une autre raison. Écoutez l'avocat parisien Éric Neustadt.
Il vaut mieux sortir l'affaire et la médiatiser que d'attendre qu'un organe de presse vienne sans aucun contrôle mettre un coup de pied dans cette fourmilière-là. Et là, on ne peut plus maîtriser. Donc ils prennent les devants, je pense.
Ils prennent les devants, dit cet avocat. Et comment ça s'est passé alors avec la justice ?
Eh bien, ce gradé qui a contesté les accusations a été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère, collecte de renseignements et livraison de renseignements. Pour autant, même s'il n'y a plus de justice militaire aujourd'hui, il n'y a plus de tribunaux spécifiques, il y a quand même peu de chances que des informations classifiées au niveau OTAN soient rendues publiques lors d'un éventuel procès.
Et puis, il y a autre chose, Franck Cognard, si le ministère des Armées judiciarise et donc médiatise ces affaires, c'est aussi sans doute pour adresser un message.
Peut-être même deux messages, en fait, et le premier est à destination de l'OTAN. L'OTAN, une institution en état de mort cérébrale, vous vous rappelez ce qu'avait dit le président Macron là-dessus. Donc la France aujourd'hui dit clairement, oui, j'ai critiqué l'OTAN, je continue à le critiquer, mais je ne me cache pas et je fais le nécessaire si j'ai un problème, si je suis mis en cause.
Alors ça, c'est le premier message.
Et le deuxième, il est évidemment adressé à la Russie. Et ce message-là, il est très clair selon Alain Chouet.
On médiatise ces affaires parce qu'on veut donner un signal d'arrêt à un certain nombre de pratiques qu'on a plus ou moins tolérées pendant des années, parfois des dizaines d'années. Et c'est, je crois, le sens des signaux qu'a voulu donner le ministère de la Défense, enfin l'exécutif en général, dans cette affaire, et dire « bon, ben maintenant, ça suffit ».
Maintenant, ça suffit, mais plus précisément, Franck, qu'est-ce qu'on veut leur dire ?
On veut leur dire arrêtez, on vous voit, et puis peut-être aussi, ça suffit, les gros sabots, les grosses traces laissées par exemple par le GRU ces dernières années, c'est l'affaire Skripal, l'empoisonnement à Londres d'un ancien agent soviétique et de sa fille, l'affaire Navalny, toute récente, du nom de cet opposant à Vladimir Poutine, empoisonné au Novichok lui aussi. C'est cette lecture que fait cette affaire le journaliste et spécialiste du renseignement du journal Le Monde, Jacques Folleroux.
Vous avez en effet tout d'abord un moyen d'adresser un message bilatéral de Paris à Moscou en disant « on dénoncera publiquement, alors que ça ne se fait pas dans le monde de l'espionnage, mais on dénoncera publiquement vos agissements et on saliera votre image et on continuera à le faire ». D'accord ? L'affaire Navalny, c'est de nouveau une prise de parole publique du chef de l'État français dénonçant les pratiques hostiles et agressives de la Russie dans le reste du monde. C'est enfin un moyen de dire, écoutez, nous, on n'a pas peur de s'attaquer à une puissance, même que ce soit la Russie ou une autre puissance.
En fait, l'attitude française dans ce dossier, dans le dossier de cet officier français, elle se rapproche de celle des services de renseignement britanniques qui, dans les deux affaires qu'on évoquait, Skripal et Navalny, ont publiquement désigné la Russie, publiquement désigné le président russe comme commanditaire.
France Inter, secret d'info.
Alors maintenant qu'on a vu quel était le profil du militaire français arrêté et pourquoi la France a choisi de dénoncer son cas à la justice, eh bien essayons de comprendre à présent pourquoi la Russie cherche à espionner l'OTAN. Et je me tourne donc maintenant vers vous, Philippe Reltien. Pourquoi Moscou s'intéresse ainsi à l'Alliance Atlantique ?
Eh bien, tout simplement parce que l'OTAN est toujours perçue aujourd'hui comme une machine de guerre au service des Américains. Des Américains qui ont gagné du terrain après la dissolution de l'Union soviétique en intégrant dans leur alliance des pays de l'ancien bloc de l'Est, comme la Bulgarie, la Roumanie ou les pays baltes. Et pourtant, vers la fin des années 90, les Russes ont vraiment cru pouvoir travailler en bonne intelligence avec l'OTAN, comme le rappelle Alain Richard, l'ancien ministre de la Défense de Lionel Jospin.
Il y a une période que là, j'ai connue de près, qui a été une tentative à l'époque de Yeltsin d'accoutumer la Russie à travailler constructivement avec l'OTAN. J'ai vécu dans mes fonctions cette période dans laquelle on s'efforçait au sein de l'Alliance et en bonne entente entre alliés de créer ce qu'on appelle des mesures de confiance avec la Russie. Au moment où il y avait certaines réunions ministérielles de l'OTAN, on faisait une réunion supplémentaire le lendemain avec le ministre russe.
Oui, donc ce qu'on entend, c'est que dans les années 90, il y avait une volonté de partager des informations avec la Russie.
Oui, et même plus, partager, par exemple, une bonne table. Certains officiels m'ont même raconté avoir sabré le champagne à Paris avec le plus haut gradé de l'ex-armée rouge. On va même ouvrir provisoirement, à ce moment-là, les archives du KGB. Seulement, en 1999, deux événements vont changer la donne. D'abord, Poutine arrive au pouvoir, et ensuite, l'OTAN bombarde Belgrade. Résultat, la confiance s'évapore, et on retombe dans l'antagonisme, un peu à cause de nous, en fait, estime Éric Dénessé, le directeur du Centre français d'études et de recherches sur le renseignement.
Cet espionnage russe, nous l'avons reprovoqué. À la fin de la guerre froide, les ouvertures, les tentatives de rapprochement qui avaient été faites par Moscou étaient réelles. Il y a eu de leur part une déception très forte de l'attitude de l'Occident, notamment sous impulsion américaine. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de redévelopper leurs actions à la fois de renseignement, de déstabilisation à l'encontre de l'Occident. Alors, il ne s'agit pas de nier qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui multiplient tous azimuts les tentatives de recrutement, les attaques informatiques. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que derrière ça, ils le font parce que nous n'avons pas su répondre à leurs demandes.
Nous n'avons pas su répondre à leurs demandes et la méfiance s'est installée, dit en quelque sorte cet expert. Et ces derniers temps, Philippe, plusieurs événements ont encore aggravé les choses.
Oui, il y a eu la guerre civile en Ukraine, l'avion de ligne MH17 de la Malaysia Airlines abattu par un missile russe et l'annexion de la Crimée, bien sûr, en 2014. Du coup, la Russie est écartée d'assemblées parlementaires comme celle de l'OTAN, qui existe bel et bien aujourd'hui, ou du G8, le club des dirigeants des pays les plus riches, devenu le G7 sans la Russie. Et parallèlement, on va voir l'espionnage russe s'intensifier, comme le révèle une note de 2015 du contre-espionnage français qu'a pu lire le journaliste Nicolas Hénard.
Ce que dit la note, c'est qu'elle constate une remontée en puissance du dispositif russe, notamment au fil des conflits, que ce soit l'intervention en Géorgie, puis l'intervention en Ukraine, l'intervention en Syrie. Globalement, à chaque fois que l'armée russe s'engage sur un terrain d'opération, cette opération militaire sur un pays tiers est accompagnée d'une offensive informationnelle dans l'ensemble du monde et notamment dans les pays clés et notamment chez nous. Cette note, elle indique, et je la cite, que le niveau d'activité du renseignement russe est aujourd'hui revenu à ce qu'il y avait au moment de la guerre froide, aussi bien en termes d'effectifs que de moyens consacrés.
Oui, donc il y aurait un lien entre l'interventionnisme russe et sa volonté de récupérer du renseignement. Et qu'est-ce qu'ils cherchent en particulier, les Russes ?
Eh bien, toutes sortes d'informations sur les activités militaires de l'OTAN en Méditerranée, en particulier. Projets, notes, organigrammes, emails, contacts. D'où l'intérêt pour eux de cibler la base de Naples, où on a une vision globale sur les activités militaires de l'Alliance dans le sud de l'Europe, au Proche et au Moyen-Orient.
Et ce qu'il faut dire aussi, Philippe, c'est qu'il existe sur le sol français un autre endroit stratégique particulièrement intéressant pour les Russes.
Et oui, il s'agit du Conseil de l'Europe à Strasbourg, une autre assemblée parlementaire où siège la Russie. Alors attention, rien à voir avec le Parlement européen qui accueille les députés de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une assemblée placée sous immunité diplomatique qui regroupe 47 pays. Plus de 2000 employés, des traducteurs, des attachés militaires, des diplomates. Le chef de la sécurité a longtemps été un Russe. Du coup, ce conseil a la réputation d'être un vivier pour les espions du monde entier, explique encore Éric Dénessé.
Il est connu que le Conseil de l'Europe est un des plus hauts lieux d'espionnage en Europe. Il ne fait pas au sens propre partie des institutions européennes, mais effectivement, on y trouve les Turcs, on y trouve tous ceux qui ne sont pas membres de l'Union, qui sont présents sur place. On y voit régulièrement des Israéliens dans les couloirs, on y voit régulièrement des Américains dans les couloirs, donc c'est effectivement...
Et les Russes reviennent?
Et les Russes reviennent. C'est un lieu de rencontre et un carrefour dans lequel on sait qu'il y a à la fois des rencontres officielles et il y a surtout aussi des rencontres non officielles.
Oui, c'est un peu le Conseil de l'Europe, nid d'espions. Maintenant, ça n'est pas le seul lieu stratégique où on essaye de recruter des informateurs français.
Oui, et les Russes nous ciblent d'autant plus que nous avons la réputation d'être assez faciles à retourner. Parmi les cas célèbres, on peut citer l'ex-ambassadeur de France à Moscou dans les années 60, l'ancien ministre de la Défense Charles Hernu, lui aussi dans les années 80, a été catalogué parmi les contacts privilégiés des Russes. Et si l'on en croit l'historien Andrei Kozovoy, qui a écrit « Les services secrets russes des tsars à Poutine », il y en aurait beaucoup d'autres.
Les services secrets français, en ce qui concerne la Russie, ou dire des généraux du KGB, c'était une passoire. La réputation était qu'on apprenait tout ce qu'on voulait en France.
par les Français.
C'est un général qui s'appelait Oleg Kalougine, qui a immigré aux États-Unis, qui l'a dit. Une véritable passoire. Est-ce que l'affaire Farwell l'a mis fin à tout cela, c'est-à-dire l'expulsion en 83 de 47 diplomates ou pseudo-diplomates? Est-ce qu'à partir du début des années 80, les Français ont commencé vraiment à prendre conscience de la pénétration soviétique en France et que depuis ce jour, on a amélioré nos systèmes de sécurité? J'en doute pas une seconde.
Il n'en doute pas une seconde, mais est-ce que c'est vraiment le cas, Philippe? Est-ce que le ministère français des armées est plus vigilant là-dessus?
Alors, chez les militaires, quand un poste est vacant à l'OTAN, c'est le ministère des armées qui propose un nom après avoir passé au crible les candidats. Tous les gradés, comme les diplomates d'ailleurs, sont informés du fait qu'ils risquent d'être approchés par des espions étrangers et des conséquences graves qu'ils encourent. Mais malgré ça, la plupart des interlocuteurs que j'ai interrogés ont reconnu qu'il y a encore des trous dans la raquette, comme on l'a vu récemment, avec ces deux anciens espions de la DGSE, condamnés cet été à 8 et 12 ans de prison pour avoir monnayé des secrets, cette fois avec la Chine.
Et nous allons interrompre notre récit là-dessus provisoirement, mais surtout restez avec nous. Pourquoi des militaires français sont-ils sensibles aux sirènes de la Russie? Réponse dans quelques instants.
Can I hold on? Can I hold on?
Horizons into Battlegrounds, le piano et la belle voix grave de Johan Lemoine, alias Woodkid, dernier extrait de son deuxième album, S16, un moment d'accalmie dans le vacarme du monde.
Secret d'info, Benoît Colomba, sur France Inter.
Alors on a vu pourquoi les Russes s'intéressent de près à ce qui se passe en Méditerranée, en ciblant notamment des militaires français. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi certains gradés acceptent de travailler pour eux, Philippe Raltien. Qu'est-ce qui peut pousser un militaire français à vouloir transmettre des informations à la Russie?
Alors il y a de multiples raisons. L'argent est toujours immobile, on vous achète. L'idéologie, vous êtes un sympathisant pro-russe. Le chantage, on connaît quelque chose sur vous qui peut vous poser problème. Et l'ego, on va vous mettre en valeur. Maintenant, on observe un autre phénomène qui est propre à l'armée française. C'est l'existence au sein d'une partie du commandement d'une forme de russophilie, un amour de la Russie et de son chef actuel qui semble assez marqué si l'on en croit la sénatrice française à l'OTAN, Joëlle Garriaud-Mellama.
Dans la défense actuelle, c'est vrai que je sens qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont une certaine admiration pour Poutine. Le Poutine, aujourd'hui, qui exprime une force, qui incarne l'autorité, qui est respectée dans son pays, il y a une certaine fascination pour cet empire. Il y a aussi cette fascination avec l'idée que la France et la Russie devraient avoir un avenir commun au sein de l'Europe et qu'il faudra absolument qu'il y ait une réunion entre ces deux pays.
Mais au-delà de la figure de Poutine, cette conviction que la France et la Russie ont un destin commun, Philippe, elle vient de loin.
En effet, c'est historique. Elle date de la Révolution française, quand des milliers d'exilés français rejoignent l'armée du Tsar, l'armée des princes. Plus tard, l'escadrille française Normandie-Niemen est engagée sur le front Est contre les nazis. Et de Gaulle lui-même est parti signer à Moscou un pacte de défense avec Staline, comme le rappelle l'ancien ministre Alain Richard.
C'est le voyage du général à Moscou en décembre 44 pour renouer. En disant, il y a une grande tradition d'alliance entre la France et la Russie, nous avons des intérêts communs, nous sommes des grandes nations qui pèsent sur le destin du monde, donc nous devons nous concerter.
Donc quand on est haut officier et qu'on est russophile, comme on le décrit là maintenant, on peut très bien prendre des initiatives qui sont
c'est
pas...
Ça, c'est pour ça que l'idée, il a fait ça, parce qu'il était tenu, il avait un fil à la patte sur le plan de la vie privée, où on lui a donné quelques centaines de milliers d'euros. Ce scénario-là me paraît pas très probable.
Ce scénario ne lui paraît pas très probable. Bon, mais qu'est-ce qui lui semble le plus probable alors?
Eh bien, l'ancien ministre pense plutôt que le militaire français, sous réserve bien sûr que l'enquête le confirme, aurait pu agir non pas contre son pays, mais au contraire pour défendre une certaine idée de la France et de sa relation particulière avec la Russie.
Mon intuition est que ça correspond à une situation qu'il y a des officiers qui ont une réticence vis-à-vis, au fond, de la disparition de l'ancienne alliance franco-russe. Il existe, dans le corps des officiers, une sensibilité qui ne conduit pas les gens à commettre des manquements à leurs fonctions, mais qui pense que nous devons garder une relation de défense constructive avec la Russie.
Oui, et certains militaires pourraient donc être sensibles à ce discours. Et Vladimir Poutine, il joue aussi sur cette corde-là.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'explique l'ex-membre de la DGSE qu'il a constaté lui-même de près, Alain Chouet.
Poutine, j'ai eu à le connaître au tout début des années 90, quand il était encore officier de renseignement. Il ne veut pas se retrouver dans la situation de 1914 ou de 1940 à devoir faire face à une offensive extérieure. Et ce qu'il veut surtout, c'est apparaître comme l'ami sur lequel on peut compter, qui ne trahit jamais ses amis. Contrairement aux Français, aux Américains, etc. Les Français qui invitent Bachar al-Assad à la tribune d'honneur du 14 juillet, puis ensuite réclament sa tête au bout d'une pique, ou qui invitent Kadhafi à monter sa tente dans un hôtel parisien, puis ensuite le font lyncher devant les caméras de télé. Les Russes veulent absolument se présenter comme un allié fiable, durable et qui tient ses engagements dans le temps.
Alors je précise que dans l'affaire qui nous intéresse, selon plusieurs sources, dont certaines connaissaient le suspect, on aurait pu jouer sur deux leviers. Effectivement, son côté russisant, russophone, russophile, mais aussi l'ego. Le militaire soupçonné est toujours lieutenant-colonel après 28 ans de service, alors que certains de ses camarades de Saint-Cyr sont devenus colonels ou général, d'où une certaine frustration peut-être de ne pas avoir été promu.
Oui, alors ça, évidemment, ça sera à la justice de l'établir ou pas. Je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, cet homme est présumé innocent. Maintenant, des militaires sensibles à l'idée de la Grande Russie, mais aussi aux liens historiques avec la Serbie et qui sont passés à l'acte, Philippe, il y en a déjà eu plusieurs dans le passé.
Oui, à commencer par le très célèbre commandant Bunel. C'est un officier de l'OTAN qu'on a pu voir descendre les Champs-Élysées un 14 juillet, après la première guerre du Golfe, dans le command-car de son général. Il part ensuite à Sarajevo, puis il est nommé à l'OTAN à Bruxelles, où un officier serbe l'approche. Il va lui livrer des informations sur les bombardements de l'OTAN à venir, comme le raconte son avocat Eric Nachtat.
Il a été approché, ça c'est le dossier qu'il dit, nous le savons tous, par un général serbe, qui lui a été promu, il n'a pas été en prison, et il conversait. Il a voulu prévenir. Alors, en termes judiciaires, ça se transforme en trahir, mais dans son esprit, c'était prévenir et convaincre l'armée serbe de se retirer du Kosovo pour éviter des bombardements auxquels peut-être les Serbes ne croyaient pas.
Et donc, si je comprends bien, lui aussi, selon son avocat, pensait agir dans l'intérêt de la France en avertissant les Serbes. Et puis, il y a un autre exemple emblématique, Philippe.
Oui, plus ancien, celui de Georges Pak, un fonctionnaire recruté à Alger en 1943. C'est un résistant gaulliste qui travaille dans des cabinets ministériels, puis à l'OTAN. Pendant 20 ans, il transmet de nombreux documents confidentiels aux Russes. Il expliquera avoir agi pour éviter un conflit nucléaire. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avant d'être gracié par Pompidou en 1970.
Alors cette affaire, on la connaît, elle est aujourd'hui dans les livres d'histoire, Philippe. En revanche, il y en a d'autres qui restent encore très mystérieuses.
Oui, quasi inconnues. C'est le cas de cette opération d'infiltration russe, de loin la plus réussie au sein du SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Un agent de ce service, employé au Quai d'Orsay, aurait livré au KGB les clés de cryptage pour lire les dépêches diplomatiques entre Paris et ses ambassades à Moscou et à Washington. Décoré par les soviétiques en 1957, il serait resté actif jusque dans les années 80. Et l'opération n'a été révélée qu'en 1992. Et le plus fou, c'est qu'il n'a jamais été identifié, raconte encore Andrei Kozovoy.
On n'a pas encore, en tout cas, révélé l'identité d'un agent au sein du Quai d'Orsay qui portait le nom de Code Jour.
Alors qui est
on
Jour
ne sait pas qui c'est. Alors on ne sait pas, c'était quelqu'un qui était au Quai d'Orsay dans le département du chiffrage, qui informait très bien les soviétiques, mais on ne sait pas qui c'est encore aujourd'hui.
Donc on ne sait toujours pas qui est ce fameux Code Jour, mais si on ne le sait pas, alors comment sait-on qu'il a existé ?
On le sait grâce au contre-espionnage britannique qui en a informé la DST, et surtout grâce à la source de cette histoire, un espion russe du KGB passé à l'Ouest.
Bien, alors avant de conclure, revenons une dernière fois, Philippe Reltien, sur cette affaire d'un lieutenant-colonel arrêté au cœur même d'une base de l'OTAN. Est-ce que le fameux message envoyé par la France aux Russes, dont on parlait tout à l'heure, en dénonçant cette histoire à la justice, est-ce que ce message peut les impressionner, les faire bouger ?
C'est peu probable, car le GRU, le renseignement militaire russe, est très discipliné et n'a jamais varié dans ses méthodes. Son rôle est de maintenir l'illusion d'une Russie très puissante, comme au temps de la guerre froide. Le message français envoyé à la Russie ne devrait donc pas changer grand-chose, pronostique l'ancien directeur du contre-espionnage à la DGSE, Alain Chouet.
On pense avoir donné un bon coup d'arrêt à ce que font les Russes. Moi, j'y crois pas trop parce que le GRU, c'est un service de gens extrêmement offensifs et obstinés. Ils s'arrêteront pas là parce qu'on leur a donné un signal. Alors tout dépend ensuite du signal politique qui leur sera donné par l'exécutif russe.
Bon maintenant, et je me retourne à nouveau vers vous, Franck Cognard, il ne faut pas être dupe, il y a un peu un effet d'optique dans tout ça, l'actualité nous oriente vers la Russie, mais il n'y a pas que les Russes qui s'intéressent de près à l'armée française.
Bien sûr que non, il y a les Chinois aussi qui sont très actifs, les Américains, ce sont nos alliés, mais ils sont très actifs aussi en espionnage. Il ne faut pas être naïf, hein. Chacun espionne et est espionné par tous les moyens possibles, renseignements électroniques, renseignements satellitaires et bien sûr renseignements humains comme dans cette histoire. Dans ce grand jeu de l'espionnage, tout le monde, y compris la France, s'adonne joyeusement à espionner ce que fait l'autre. C'est ce que confirme l'ancien officier traitant de la DGSE, Olivier Mas.
On le fait tous, bien sûr. On serait ravis de recruter un officier russe, un militaire russe, un général russe en poste en Syrie. Vous vous rendez compte, ce serait un sacré coup. Et si on a l'occasion de le faire, on ne va pas s'en priver. Tous les services, toutes les nationalités ont des affaires comme cela. Il y a toujours des traîtres. Parce que le travail d'un service de renseignement, c'est d'essayer de recruter des gens comme ça.
Bien, merci Franck Cognard, merci Philippe Reltien. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec. Excellent week-end et à samedi prochain.